Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des cours d'histoire. Nous allons lancer dès cette première émission une série de cours d'histoire consacrés à la Renaissance, mais aussi à l'univers religieux du XVIe siècle. Je suis très heureux de recevoir au micro de Storia Voce Hugues Dossi. Hugues Dossi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Franche-Comté. Vous êtes spécialiste donc de la Renaissance, mais aussi du protestantisme. Votre dernier livre, Le Parti Huguenot, chronique d'une désillusion, paru à Genève chez Droz, a reçu en 2014 le prix Chateaubriand. Hugues Dossi, nous allons engager donc une réflexion sur la Renaissance en plusieurs parties. Nous entamons aujourd'hui cette toute première partie consacrée donc à l'art de la Renaissance et à l'inspiration, tout particulièrement l'inspiration antique. Hugues Dossi, comment qualifier la Renaissance ? Qu'est-ce que la Renaissance ?
La Renaissance est un mouvement culturel qui a touché l'Europe de 1350 à 1650 environ, c'est-à-dire pendant environ 3 siècles. Et c'est un mouvement qui se caractérise d'abord par un rejet de la période médiévale qui est considérée par les hommes de la Renaissance comme un temps barbare, un temps qu'ils qualifient de gothique en référence aux Goths, le peuple barbare qui avait submergé une partie de l'Europe occidentale. Et c'est un mouvement qui prône, en réaction à ce mouvement barbare qui caractérise la période médiévale, qui prône un retour aux sources antiques, puisque la civilisation antique est considérée comme éminemment supérieure à celle de la période médiévale, mais aussi un retour aux sources chrétiennes, puisqu'il y a deux humanismes. L'humanisme, c'est l'incarnation de ce mouvement culturel, un humanisme qui revient aux sources de l'Antiquité, un humanisme qu'on appelle chrétien et qui revient aux sources premières du christianisme.
Est-ce qu'on peut considérer de fait la Renaissance comme une coupure, ou est-ce que cette coupure est artificielle, au fond, avec notre regard contemporain ?
Alors, toute coupure chronologique est par définition artificielle, dans la mesure où il n'y a pas un événement marquant qui peut, de manière tout à fait rationnelle et justifiée, symboliser le passage d'une période à une autre. Mais plus particulièrement pour la Renaissance, c'est la conviction des hommes de l'époque, que les hommes de l'époque ont eu, qu'il y avait une césure majeure entre ce qu'ils vivaient, le mouvement culturel qu'ils incarnaient, et la période médiévale, qui les a poussés à penser qu'il y avait une rupture fondamentale. Or, en fait, on se rend compte, quand on étudie les choses de près, qu'il y avait véritablement une continuité dans certains domaines entre la période médiévale et la Renaissance.
En quoi ce mouvement de retour aux sources et de rejet donc de l'époque médiévale s'applique-t-il au domaine artistique ?
Alors, c'est l'un des domaines principaux de l'application de ce mouvement culturel. Tout simplement parce que, comme dans d'autres domaines, mais peut-être plus que dans tout autre domaine, dans le domaine artistique, les hommes de la Renaissance, les humanistes, considèrent que l'Antiquité était éminemment supérieure et les idéaux de la Renaissance se marient particulièrement bien avec certaines caractéristiques de l'art antique. Par exemple, l'idée de perfection des formes artistiques de l'Antiquité, l'idée d'équilibre qui prévalait dans les formes architecturales, l'harmonie qui caractérisait cet art antique est tout à fait en accord, en adéquation avec les idéaux philosophiques de la Renaissance. Et on rompt ici avec une période médiévale, gothique, qui était jugée en revanche désordonnée, et cela se matérialise aussi bien en architecture qu'en sculpture et même, par extension, en peinture.
Nous n'avons pas parlé des lieux et de la géographie. On associe généralement la Renaissance artistique d'abord à l'Italie.
Alors l'Italie est en effet le principal foyer de la Renaissance artistique, mais il n'est pas le seul. On peut dire qu'il y a en réalité deux foyers principaux. Il y a le nord de l'Europe, les Flandres et le nord de l'Empire, qui sont un foyer indépendant du foyer italien, qui évolue donc de manière indépendante l'un de l'autre, mais qui aussi par moments se rencontrent, s'influencent mutuellement. Et donc, si l'Italie est bien le foyer principal, elle n'est donc pas le seul.
Comment les artistes de la Renaissance reprennent-ils contact avec les formes et les techniques artistiques de l'Antiquité? J'ai reçu à ce micro Sylvain Guggenheim qui a montré le lien qu'il y a eu sur les textes en philosophie. Est-ce que les monastères ont joué un rôle dans cette continuité où on est allé directement dans l'Italie pour récupérer une sorte d'héritage.
Alors en fait, sur le plan artistique, le principal contact avec l'art antique est un contact physique. C'est-à-dire qu'on procède à des fouilles archéologiques qui permettent de redécouvrir des monuments, de redécouvrir des objets d'art, des statues notamment. Et c'est l'observation de ces monuments et de ces statues qui permet aux artistes de la Renaissance de redécouvrir l'art antique. On a quelques exemples frappants d'œuvres d'art emblématiques qui ont particulièrement influencé les hommes de la Renaissance. Par exemple, une statue d'Apollon qui a été retrouvée à la fin du XVe siècle à Rome, qu'on appelle l'Apollon du Belvédère, tout simplement parce qu'il a ensuite été exposé dans la cour du Belvédère au Vatican, puisqu'il faisait partie de la collection du pape Jules II. Et cet Apollon du Belvédère a servi de modèle pour la représentation de la beauté juvénile, grâce à l'harmonie de ses proportions, par exemple. Autre œuvre d'art emblématique, le Laocoon, qui est un groupe sculpté d'une dynamique exceptionnelle et qui a servi aussi de modèle pour les artistes de la Renaissance qui voulaient représenter des compositions qui rompaient avec un certain hiératisme médiéval. Ce Laocoon, c'est un prêtre d'Apollon à Troyes et qui avait été victime d'une vengeance de son dieu et qui avait fini étouffé par des serpents. Et c'est ce que représente justement ce groupe sculpté. Donc il y a vraiment ici une inspiration au plus près des œuvres. Aussi en architecture, avec par exemple le Panthéon de Rome, qui est le seul monument de l'Antiquité qui tenait encore debout au XVIe siècle et qui a été beaucoup copié, notamment pour la structure de sa coupole.
L'Église joue un rôle, vous évoquiez le pape Jules II. Le pape Jules II a un rôle très important dans la Renaissance des arts.
Alors le pape Jules II, mais aussi ses successeurs, Léon X et d'autres, qui en fait ont joué un rôle de mécène tout à fait essentiel, non seulement en redécouvrant ces œuvres d'art, en faisant l'acquisition et en donnant accès aux artistes qui ont pu les observer, mais aussi par le mécénat de l'Église, qui a financé énormément de réalisations au Vatican, de fresques. On pense à la chapelle Sixtine, bien sûr, mais également beaucoup d'autres fresques qui ont été réalisées au Vatican, notamment par Raphaël et Michel-Ange.
En quoi, parce que nous sommes dans l'univers artistique, mais en quoi ces découvertes archéologiques contribuent-elles à susciter ou à conforter certains thèmes majeurs de ce qu'on appelle la pensée humaniste?
Alors il se trouve que certes, les artistes de la Renaissance sont inspirés de la redécouverte physique de l'art, mais ils ont aussi redécouvert certains traités. Par exemple, le De Architectura de Vitruve, qui a été redécouvert dans les manuscrits de l'abbaye de Saint-Gall en 1414. Et ce De Architectura de Vitruve est le seul traité d'architecture qui nous soit parvenu de l'Antiquité. Et il se caractérise par l'énoncé de grands principes dans le domaine de la construction qui mettent en avant l'harmonie des formes, l'harmonie des proportions. Or, cette harmonie est un des arguments clés de l'humanisme et l'un des thèmes clés de l'humanisme. Et donc, les choses vont très bien l'une avec l'autre. Tout comme la construction circulaire, le cercle, c'est une forme qui est considérée comme parfaite, eh bien, les architectes de la Renaissance, pour certaines constructions, notamment pour certaines églises, vont abandonner le plan en croix latine pour adopter un plan en croix grecque qui permet donc une construction de forme ronde.
Est-ce qu'on peut dire qu'au même titre que le XIIIe siècle, notamment avec le quatrième du Concile de Latran, a découvert le concept de personne et a développé le concept de personne, est-ce qu'on peut dire que le XVIe siècle, lui, a développé le concept de l'homme tel qu'on peut le concevoir encore aujourd'hui?
Alors, la Renaissance se distingue du Moyen-Âge en ce que le Moyen-Âge est une période théocentrée, c'est-à-dire que la réflexion est entièrement centrée autour de Dieu, alors que la Renaissance a une pensée anthropocentrée, c'est-à-dire complètement centrée autour de l'homme, dont on considère qu'il est placé au centre de l'univers par Dieu, qui lui a donné toutes les potentialités, aussi bien celle de demeurer une bête s'il ne développe pas son intelligence que celle de devenir un être quasi divin. Et dans le domaine artistique, cette place centrale accordée à l'homme s'incarne dans notamment par exemple le portrait le domaine du portrait, qui est particulièrement développé. Hein. On représente à nouveau l'homme, comme on le faisait dans l'Antiquité. L'Antiquité, c'est sous forme de buste. Eh bien, à la Renaissance, on va dessiner des portraits qui ont pour fonction non seulement de représenter la personne, mais aussi de donner une profondeur psychologique à ces personnes par un jeu très, très attentif au regard, à l'expression qui doit révéler la personnalité.
Alors, quels sont les thèmes artistiques antiques particulièrement remis à l'honneur pendant la Renaissance?
Alors, on a notamment le nu qui avait beaucoup disparu à l'époque médiévale, sauf pour la représentation d'Adam et Ève, par exemple. On avait conservé évidemment la représentation du nu, mais sinon, il avait beaucoup disparu, notamment en lien avec l'Église. Eh bien, à la Renaissance, le nu est à nouveau représenté de manière très abondante, en s'inspirant des statues antiques. En sculpture, par exemple, la première grande représentation nue, c'est le David de Donatello, qui est réalisé vers 1440, qui est une sculpture en bronze. Et puis, par la suite, de très nombreux sculpteurs vont reprendre ces thématiques. Dans le domaine pictural, également, on a beaucoup de représentations de nus qui sont liées étroitement avec une inspiration mythologique, d'ailleurs. Et on trouve ces nus en peinture, nus féminins en peinture, aussi bien en Italie que dans les Flandres. Et autre représentation importante, donc le portrait qui, lui, je viens de le dire, dérive un petit peu de la reprise des bustes antiques, hein, puisqu'on représente les personnages à mi-corps et de trois quarts, un petit peu comme c'était le cas dans les bustes antiques. On a aussi les statues équestres, par exemple, qui avaient complètement disparu, qui sont à nouveau remises à l'honneur à la Renaissance.
Alors, la littérature et la philosophie sont bien évidemment touchées et développées pendant cette période. Quel rôle joue cette littérature et cette philosophie dans ce renouveau artistique?
Alors, on peut difficilement séparer le renouveau artistique de l'inspiration philosophique et littéraire. Tout simplement parce que la plupart des thèmes des artistes de la Renaissance, qu'il s'agisse des sculpteurs ou des peintres, sont souvent des thèmes mythologiques. Ils s'inspirent des écrits d'Homère, de Virgile, d'Ovide, pour se nourrir et pour trouver des thèmes à représenter. Et par ailleurs, sur le plan philosophique, la Renaissance se caractérise par un retour de Platon. La période médiévale, c'était Aristote, hein, le grand philosophe médiéval. Eh bien, pour la Renaissance, c'est Platon. Et il y a à Florence, dans l'entourage de Marcile Ficin, une académie néoplatonicienne qui se crée au milieu du XVe siècle, dans une villa qui avait été donnée par les Médicis, la Villa Careggi. Et dans ce cercle néoplatonicien dirigé par Marcile Ficin se trouvent des poètes, des philosophes, mais aussi des peintres, et en particulier Botticelli, qui est un membre de cette académie néoplatonicienne. Et certaines des œuvres de Botticelli, comme le Printemps par exemple, sont étroitement influencées par la pensée néoplatonicienne. Il y a une première lecture, un premier niveau de lecture, qui est une allégorie du printemps. Et puis il y a un second niveau de lecture philosophique néoplatonicien qui permet de voir dans cette œuvre une exaltation de l'élévation de l'âme vers Dieu. Là, donc il y a tout un programme interprétatif.
Alors nous avons évoqué la question géographique sur est-ce que ce mouvement touche toute l'Europe de la même manière? Est-ce que cette Renaissance n'est pas au fond l'apanage d'une minorité en Europe, ou au contraire, est-ce qu'elle concerne, tous les niveaux de la société?
Alors, il y a deux niveaux de réponse. Sur le plan de l'extension, sociale de la diffusion de la Renaissance, c'est extrêmement restreint. C'est une micro-élite qui a conscience de vivre ce mouvement culturel et qui y participe. Ce sont quelques pourcents de la population européenne. La plupart des hommes de la Renaissance n'ont aucune idée de cette évolution philosophique, artistique, littéraire. En ce qui concerne l'extension géographique, certes, l'Italie est un foyer important, et c'est à partir de l'Italie que bien souvent les idéaux de la Renaissance se sont diffusés. On a vu que au nord de l'Europe, il y avait aussi un certain dynamisme, mais qui n'atteint pas celui de l'Italie, mais il y a eu entre ces deux foyers une communication qui s'est instaurée, une communication qui s'est faite par le déplacement des hommes, parfois, et des artistes du Nord faisaient ce qu'on appelait le voyage d'Italie pour venir observer les modes de productions artistiques italiens. Et en revanche, il avait aussi des œuvres d'art qui ont voyagé du nord vers l'Italie. Et c'est semblé paradoxal, mais ils ont transité par l'Espagne, puisque le roi d'Aragon était particulièrement séduit par l'art du Nord, mais il était aussi roi de Naples, et donc il avait importé à Naples des œuvres des artistes du Nord, comme Van Eyck ou Van der Weyden. Et l'observation que les artistes italiens ont pu faire des œuvres du Nord dans le cadre de la cour du roi de Naples a permis comme ça d'importer des modèles. Et puis ensuite il y a eu une circulation au-delà de ces deux foyers vers la France par exemple, qui s'est faite à partir de l'Italie, pour notamment à l'occasion des guerres d'Italie, puisque Charles VIII et François Ier ont ramené des œuvres en France.
Et vous verrez dans le nom de Storia Voce un lien précisément entre ce monde italien et ce monde du nord de l'Europe. Merci beaucoup Hugues Dossy. Donc je rappelle que vous êtes historien, professeur d'histoire moderne à l'université de Franche-Comté et que nous venons donc d'enregistrer une toute première émission sur l'art de la Renaissance, l'inspiration antique. La prochaine émission sera consacrée, elle, à l'innovation à l'époque de la Renaissance. Merci, très chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.